En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pompéi et ses vestiges, un grand classique de notre imaginaire culturel, qui rassemble tous les éléments propices à un choc esthétique. La sidération devant ces formes humaines pétrifiées dans la cendre et conservées telles quelles. Et la beauté crue des vieilles pierres, figées elles aussi depuis l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. De quoi inspirer les artistes de toutes les époques, des romanciers du 19e siècle aux cinéastes du 20e siècle. Et c'est Claude Aziza qui en parle dans cette émission « Les chemins de la connaissance » diffusée en 1996.
À partir de 1750, artistes et écrivains partent à la découverte de l'Italie et de Pompéi, y cherchant à la fois le dépaysement et le souvenir de l'Antiquité. Allemands comme Goethe, Français comme Stendhal, Taine, Gautier, Américains comme Mark Twain, tous font le fameux voyage en Italie et Pompéi est l'étape obligée, Claude Aziza.
Ce n'est que vraiment au tout début du 19e siècle que Pompéi devient une étape obligée dans le voyage en Italie. Puisque c'est le voyage en Italie qui, d'abord, avant que le véritable voyage soit le voyage en Orient, c'est le voyage en Italie qui, déjà depuis quelques siècles, motive les voyageurs. Alors effectivement, on commence à prendre l'habitude, avec Goethe à la fin du 18e, mais surtout avec Chateaubriand à partir du début du 19e, de passer par Pompéi.
D'ailleurs, Chateaubriand n'a pas dit grand-chose de Pompéi, ça n'est pas passé dans ses écrits.
Chateaubriand, d'ailleurs, quand on regarde tout ce qu'ont dit ses écrivains, on s'aperçoit que souvent, leurs propos ne correspondent pas à l'image qu'on s'en fait. Vous voyez, Chateaubriand, on attendrait de la part de Chateaubriand une espèce de méditation lyrique sur Pompéi. Ce n'est pas le cas. En revanche, il dit quelque chose de très intelligent, c'est qu'il faudrait peut-être laisser les choses en l'état. C'est-à-dire ne pas toucher les objets, les laisser sur place. Il a une espèce d'intuition de reconstitution de la vie quotidienne sur place. Un personnage comme Stendhal, par exemple, a été très souvent à Pompéi, plus d'une dizaine de fois. Et au fond, le seul souvenir pittoresque qu'il en garde, c'est d'avoir déjeuné d'une excellente omelette face au Vésuve. Vous voyez, on est un peu déçu. Même chose pour Lamartine. Non pas pour l'omelette, mais pour la déception, si vous voulez. Il est assez sec là-dessus. Madame de Staël, elle plutôt, va méditer sur le destin de l'humanité. En revanche, des écrivains comme Gautier, comme Nerval, comme Janssen à la fin du siècle, ou comme Bulwer-Lytton au début ou au premier tiers, qui ne sont pas forcément de grands écrivains, sauf Gautier et Stendhal, ou en tout cas très connus du public, ce livre-là, des méditations un peu plus fécondes. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir, me semble-t-il, le statut que prend Pompéi dans l'imaginaire à travers tout le siècle. On peut le voir en regardant la production littéraire. Par exemple, Bulwer-Lytton est à Pompéi en 32-33, 1800, avec sa femme. Il est tout seul. Il est tout seul. Il pénètre dans les ruines comme il veut. Il arrive au moment où on vient de découvrir la maison du poète tragique. Et en plus de cela, il a la chance d'avoir une femme qui ne l'accompagne pas sur les ruines. Enfin, la chance n'est pas là. Il a plutôt la chance d'avoir une femme qui, ne l'accompagnant pas sur les ruines, tombe un peu amoureuse d'un bel Italien. Alors, ce qui fait qu'il voit les ruines, le cœur en écharpe, ce qui est très bon. Hein, ce qui vaut mieux
très
voir
bon
les
pour
ruines,
la fiction,
c'est
pour le
très
roman.
Bon pour effectivement, il vaut mieux voir les ruines sous la pluie quand on est triste que sous un beau soleil. En tout cas, c'est mieux pour la littérature. Et du coup, cet écrivain, qui est un homme à femme d'ailleurs, et qui écrit des choses assez intéressantes, mais rien d'immortel, sous le double effet des découvertes et d'un chagrin d'amour qu'il gonfle un petit peu, écrit un magnifique roman qui va devenir le roman emblématique de Pompéi, Les derniers jours de Pompéi.
1834.
Ce qui est intéressant, c'est que le hasard fait que la même année 34, alors je ne sais pas si Bill Warlington l'a vu ou ne l'a pas vu, on expose à Paris une toile du peintre russe Brioulov qui s'appelle « Le dernier jour de Pompéi ».
Qui est là ? Dit d'une voix basse et tremblante quelqu'un qui les avait précédés dans ce refuge. Mais qu'importe, la chute du monde fait qu'il n'existe plus d'amis ni d'ennemis. Ione se retourna au son de cette voix et, avec un faible cri, se pressa dans les bras de Glaucus, qui, jetant les yeux dans la direction de la voix, reconnut la cause de ses alarmes. Deux yeux étranges brillaient dans l'obscurité. Un éclair passa et illumina le temple. Et Glaucus, en frémissant, aperçut le lion, dont il aurait dû être la proie, couché sous un des piliers, et à côté de lui, sans se douter de ce voisinage, était étendu le corps gigantesque de celui qui venait de leur parler, le gladiateur blessé Niger. Le lion s'approcha en rampant vers le gladiateur, comme pour avoir un compagnon, et le gladiateur ne recula ni ne trembla. La révolution de la nature avait dissous les terreurs et les sympathies ordinaires. Edward Bulwer Lytton, Les derniers jours de Pompéi.
Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le roman de Bulwer Lytton, Les derniers jours de Pompéi, c'est un roman intéressant, mais c'est un roman avec un bric-à-brac romantique. C'est-à-dire, les personnages sont au fond assez peu fouillés, il y a un couple assez mièvre. Quand on le relit maintenant...
Une histoire d'amour contrariée,
mais c'est le personnage du grand prêtre d'Isis, Arbacès, qui est le plus intéressant. Il y a une sorcière, il y a énormément de choses qui d'ailleurs ne vont plus transparaître dans les adaptations filmiques parce qu'elles sont sans intérêt, elles sont datées, si vous voulez. Donc, en tant que roman, si les derniers jours de Pompéi ne se passaient pas à Pompéi, finalement, on ne le lirait presque plus, d'ailleurs. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que le roman est devenu presque un témoignage archéologique de la vision de Pompéi en 1834, avec cette idée géniale de Bulwer Lytton, qui sera reprise ensuite dans d'autres romans, qui est de placer ces personnages dans les maisons qu'on vient de trouver. Donc Glaucos, le héros des derniers jours de Pompéi, habite dans la maison du poète tragique, dite du poète tragique. Ce qu'a vu Bulwer Lytton, peut-être qu'on ne peut plus le voir de la même façon. Ça me paraît assez passionnant.
C'est peut-être pour ça que ce roman a inspiré nombre de cinéastes dès 1900.
Certainement.
Ça a donné le péplum pompéien par excellence, l'ancêtre de nos films catastrophes.
D'abord parce qu'effectivement, quand on regarde les adaptations, il y en a 17 ou 18, mais...
Oui, c'est vraiment étonnant.
Je crois que c'est un des romans, je mets à part Les Misérables, hein, bien sûr, et Les Trois Mousquetaires, mais ce qui concerne l'Antiquité, c'est certainement avant Covadis, avant, bien sûr...
Le roman le plus souvent adapté au cinéma.
Oui, c'est le roman le plus souvent adapté au cinéma, mais le problème cinématographique, c'est un problème extrêmement complexe, parce que finalement, vous avez raison de parler de films catastrophes, avant La Lettre d'ailleurs. Le dernier film en date, qui est le film de Sergio Leone de 1959, est sorti en 59. Il est ressorti une dizaine d'années plus tard sous le titre Cataclysme, alors qu'en 59, c'était Les derniers jours de Pompéi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces films, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui sont des adaptations du roman, c'est un film sur le temps suspendu, si vous voulez. C'est-à-dire que le cinéaste, les acteurs et les spectateurs n'attendent qu'une seule chose, c'est que c'est la catastrophe. Alors en attendant, on meuble. Alors, le film de 59, il est un peu compliqué parce qu'il montre une véritable explosion, éruption du Vésuve, hein, qui a eu lieu et dont l'écrivain Malaparte a été le témoin dans la peau, qui a eu lieu à Naples, donc pendant la guerre, à la fin de la guerre. Et puis, en même temps, c'est Les Rendez-vous du Diable d'Aruntasiev qui a été tourné aux îles Canaries. C'est-à-dire que il y a aussi un mélange savant d'erreurs, de fausseté, mais c'est normal puisque la géographie a changé depuis l'éruption du Vésuve. Alors ce problème de la catastrophe, c'est que le film est obligé au fond d'avoir recours à des moyens spectaculaires puisque pour nous la catastrophe c'est des toits qui tombent, des temples qui s'écroulent, des gens qui reçoivent des blocs sur la tête. et aussi des comportements individuels qu'on retrouve à travers tous les films catastrophes. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous comparez Dernier jour de Pompéi aux autres films catastrophes, ou au Colosse de Rhodes sur l'Antiquité, ou bien aux autres, vous apercevez qu'il y a toujours dans les films catastrophes, comme à Pompéi, un échantillon d'humanité, et qu'on sait déjà ceux qui vont s'en sortir et ceux qui seront condamnés. Et puis qu'on a toujours l'enfant qui est perdu dans les rues, le héros, comme dans les derniers jours de Pompéi, qui va chercher la poupée de l'enfant que l'enfant est en train de désespérément de chercher. Tout ça est assez naïf, il faut bien le dire.
Et pathétique, oui.
Pathétique, voilà. On est exactement dans le domaine du pathétique. C'est fait pour arracher des larmes et des frissons aux spectateurs. En revanche, il y a des autres utilisations de Pompéi. Regardez Aria Marcella et la Gradiva, qui est quand même quelque chose de très intéressant. Il est regrettable que Freud n'ait pas connu Gautier. Sinon, il aurait fait vraisemblablement son analyse sur l'œuvre de Gautier. Dans les deux cas, un jeune homme est attiré par une empreinte ou quelque chose. Un morceau de femme, si vous voulez. Dans le cas d'Aria Marcella, le héros, qui s'appelle Octavien, voit au musée de Naples une empreinte en creux d'un sein que Gautier a vu. Et qui n'existe plus maintenant. Là encore, c'est intéressant. Maintenant, c'est fini. Cette empreinte a complètement disparu. Donc, dans la lave, il y a l'empreinte d'un sein. Et il imagine que ce sein appartient à une pompéienne. Et effectivement, la nuit, il va se promener dans Pompéi et il va retrouver Pompéi ressuscité. Où les gens parlent latin. Alors, ça sert d'avoir fait du latin. Donc, il arrive à parler avec eux et il va effectivement retrouver cette pompéienne, Aria Marcella. Tout nous dit que c'est un spectre, si vous voulez, et il est très séduit, et au moment où apparemment quelque chose va se passer entre eux, le père intervient, et Octavien rentre, il se marie ensuite, et toute sa vie, il va être pris par cet amour, qui n'aura jamais pu être exaucé, qui est une espèce d'amour impossible. Et alors que dans la Gradiva, c'est tout le contraire, puisque c'est à partir du moulage d'une jambe qui se dresse,
d'une cheville,
donc là, le héros qui est archéologue d'ailleurs, commence à rêver, qu'il aperçoit dans les ruines de Pompéi, où il se promène aussi, quelqu'un qu'il pense être cette Gradiva, qu'il interroge et qui lui répond en latin. Donc il pense qu'il c'est une pompéienne et puis qui, en fait, se révèle être une amie d'enfance qui s'appelle Zoé, comme par hasard, ce qui signifie la vie, une amie d'enfance qu'il a complètement oubliée, mais qui est amoureuse de lui, dont il va faire sa femme. Alors si vous réfléchissez, dans les deux cas, vous apercevez qu'il y a une analyse, si je puis dire les choses bêtement, mais que dans le premier cas, l'analyse a échoué. Pourquoi ? Parce que Octavien, il va être malheureux toute sa vie, donc il est resté dans son fantasme, et puis que l'analyste n'a rien pu faire pour lui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il se marie avec une Anglaise, et que sa femme pense qu'il cache vraiment un amour pour quelqu'un, et elle cherche désespérément des lettres dans un tiroir, et elle ouvre le tiroir, elle s'aperçoit que le tiroir est vide, donc il n'y a rien. Alors que dans le cas du héros de la Gradiva, c'est une analyse réussie, parce que, au fond, Zoé a fait ce que devrait faire un bon analyste, c'est-à-dire qu'elle est descendue, si j'ose dire, dans le fantasme de Norbert, qui est le héros, et puis elle l'a sorti du fantasme, et effectivement, il va être heureux il sera heureux, semble-t-il, puisqu'il a pu faire coïncider le réel avec l'objet de ses rêves. Ce qui n'est pas le cas d'Octavien. Donc, au point de vue analytique, Aria Marcella, et au point de vue littéraire aussi, bien entendu, Aria Marcella est beaucoup plus intéressant que la Gradiva.
Donc Pompéi a donné lieu à des œuvres plus subtiles en littérature qu'au cinéma.
Je le crains, à part Voyage en Italie, mais enfin, il y a d'autres œuvres, bien sûr, sur Pompéi. Vous voyez, à la fin du siècle, par exemple, du 19e, toute la littérature française est traversée par une espèce de courant néoclassique. Mais néoclassique qui va plutôt vers une espèce d'érotisme un petit peu graveleux, un peu fin de siècle, un peu kitsch, si vous voulez. C'est l'époque de Jean Lorrain, Rachille, etc.
Pierre Louis,
voilà. Et donc, il y a un romancier, mais Jean Berthereau, mais qui est en fait une romancière, d'ailleurs, qui va écrire énormément de romans sulfureux sur l'Antiquité. et elle écrit une danseuse de Pompéi complètement folle, où elle invente une antiquité, mais c'est cette antiquité, Pompéi, c'est la joie de vivre, c'est une vaste plaisanterie, ça. C'est pas plus la joie de vivre qu'ailleurs. Il faut pas penser que les cités antiques vivaient dans la joie parce que, effectivement, il y avait du soleil et que tout allait bien.
Ah, c'était... Enfin, Pompéi avait la réputation d'être une ville heureuse. On disait Pompéi la joyeuse.
Oui, joyeuse. Joyeuse, c'est pas heureux, hein, forcément. Et puis, oui, Pompéi la joyeuse pour un petit groupe de privilégiés, bien entendu. Donc, la danseuse de Pompéi, c'est effectivement Pompéi dans la joie, avec des gens qui sont à moitié nus, qui dansent sans arrêt. Ça se termine d'ailleurs d'une façon sublime, où exacerbée par l'amour qu'elle porte à un jeune prêtre, elle va se coller toute nue contre le volcan qui est en train de s'échauffer. Enfin bref, oui, c'est un délire. Hein. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Herculanum a donné naissance à peu de romans. Sinon, un roman américain des années 50.
Ah oui, le roman de Richard Levlin.
Qui est un romancier américain un peu populaire et qui a écrit effectivement quelque chose sur Herculanum en essayant d'imiter Bill Burlington, mais la mayonnaise n'a pas forcément pris. Alors, il est dommage que tous les films se soient focalisés sur ce roman.
Les derniers jours de Pompéi.
Les derniers jours de Pompéi, les derniers jours, en fait.
Oui, même Marcel Lherbier a adapté ce roman en 1948.
Oui, alors Lherbier a l'adapté d'une façon assez fade, il faut bien le dire, mais pas inintéressante.
Avec de bons acteurs, Michel Prel, Georges Marshall.
Qui est dans un de ses tout premiers rôles. Georges Marshall, qui est le jeune premier de l'époque. Le film manque quand même un peu de tonus.
Vous préférez le film de Sergio Leone, 59.
Je ne dirais pas ça. Moi, je préfère l'adaptation... L'adaptation télévisée de Peter Hunt, qui est excellente. C'est 6 épisodes, c'est très long, mais pratiquement tout y est. Tandis que le film de Sergio Leone, comme toutes les adaptations, et ça c'est aussi intéressant, raconte des choses tout à fait différentes du roman. C'est-à-dire que là où le roman racontait une intrigue du 19e, Sergio Leone fait quelque chose de beaucoup plus musclé des années 59-60. Il ne faut pas oublier que le héros, là, Glaucus, n'est plus une espèce de poète grec désœuvré, riche et désœuvré, mais c'est un robuste centurion qui rentre comme par hasard de Jérusalem, parce que c'est la guerre de 79. On vient de finir la guerre de Judée. Et il est joué par Steve Reeves, qui a incarné Hercule au cinéma depuis 57.
Oui, donc très différent de George Marshall.
Très différent de George Marshall.
Puis il y a même les Pink Floyd qui ont rendu hommage au Vésuve. Ils ont donné un concert mémorable.
Oui, il y a eu un concert à Pompéi. Oh, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on connaît moins, bien entendu. Il y a des émissions anglaises, un film parodique anglais qui se passe à Pompéi.
Donc c'est toujours le lieu de tous les rêves et tous les fantasmes à Pompéi.
Oui, je pense qu'on peut dire que, bien entendu, c'est un lieu archéologique extraordinaire, mais c'est plus, de nos jours, un lieu fantasmatique.
C'était Pompéi et le cinéma dans Les chemins de la connaissance, une émission de Marie-France Hazard, réalisée par Michel Prudon. Première diffusion sur France Culture le 31 mai 1996.